Éternel, notre Dieu, quel bienfait que de lire ces versets de ce psaume et avec le psalmiste de pouvoir nous écrier, nous aussi, « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre tendance naturelle, Seigneur, c'est souvent de tourner des regards, d'avoir des regards insatisfaits sur notre situation. Et pourtant, Seigneur, lorsque nous rentrons dans ta présence, lorsque nous prenons du temps, lorsque nous regardons en arrière, Éternel, que nous considérons notre vie sous ton regard, de marche avec toi, c'est vrai, bien imparfaite lorsque nous considérons cette marche personnelle, mais lorsque nous regardons, Seigneur, combien tu as été fidèle, alors nous pouvons réellement, profondément, affirmer avec le psalmiste « Mon âme bénit l'Éternel ». Éternel, si nous pensons à notre Église, si nous regardons en arrière, Éternel, à ces années passées, que nous voyons, Seigneur, combien tu l'as gardée, protégée, bénie, Seigneur, gardée au travers des difficultés, au travers des tempêtes, combien tu l'as consolidée, Éternel, dans des moments aussi plus paisibles, nous pouvons dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Lorsque nous considérons nos vies, Seigneur, nous qui t'appartenons, lorsque nous voyons qui nous étions, Seigneur, d'où tu nous as arrachés et jusqu'où tu nous as conduits jusqu'à aujourd'hui, et lorsque nous confions dans cette promesse, Seigneur, que personne ne pourra nous arracher de ta main et que tu nous aideras dans cette persévérance à laquelle nous sommes appelés, eh bien, nous pouvons dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Ce matin, Éternel, notre Dieu, nous voulons donc laisser toute récrimination, toute mauvaise humeur, toute ingratitude, t'en demander pardon, Éternel. Seigneur, te confesser que de diverses façons, nous avons pu maugréer cette semaine, pour différentes raisons, et te demander ce matin vraiment que ce soit des regards saints, purs, Seigneur, qui se tournent vers toi, et que ce soit avec des cœurs d'enfants reconnaissants pour le Père bienveillant, le Sauveur magnifique que tu nous as donné, que nous puissions regarder à toi. Éternel, ce matin, comme tous les jours, et particulièrement ce matin, ce jour, Seigneur, qui t'est consacré, nous te demandons la grâce, Seigneur, de ton aide, de ta présence. Nous allons lire ta parole, nous avons commencé à la lire, nous allons l'écouter prêcher, les enfants écouteront aussi cette parole enseignée. Seigneur, nous savons que sans le secours de ton esprit, pour quelque cœur que ce soit, du plus âgé au plus jeune, Éternel, nous ne pouvons pas comprendre cette parole si tu ne nous la révèles pas. Et c'est ainsi que nous te demandons vraiment la grâce, ce matin encore, de ton secours. Nous te demandons aussi, Père, que tu nous aides à te rendre ce culte par des chants, vraiment chantés de tout cœur, que nos paroles puissent vraiment, Éternel, avoir du volume, non pas, Seigneur, parce que nous voulons chanter plus fort que les autres, mais tout simplement parce que les paroles de nos chants, Seigneur, seront exprimées de tout cœur, comme une réalité ou comme une aspiration, lorsque ce sera des prières. Ô Dieu, notre Dieu et notre Père, nous te demandons la grâce de ton secours et te bénissons pour ta présence, pour ton si grand salut. Bénis ces instants qui vont suivre, durant lesquels nous lirons ta parole, nous souviendrons ensemble, Seigneur, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Bénis le temps de chant aussi, Éternel, qui suivra ce cantique maintenant et l'autre après. Et bénis aussi, Père, ton Église à la surface de la terre, tous nos frères et sœurs qui se réunissent, ou qui se sont déjà réunis, ou qui se réuniront. Bénis, Seigneur, tous les cultes, du plus modeste peut-être, dans une maison, dans une pièce, jusqu'à la plus grande des assemblées. Bénis tes serviteurs qui auront cette responsabilité de prêcher ta parole. Sois glorifié sur cette terre aujourd'hui, notre Dieu, parce que tu en es le souverain, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble le texte de la prédication de ce matin. Ouvrons nos Bibles en Esther, chapitre 7. Le roi et Haman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther ? elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande, avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant homme. » Alors Aman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Aman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Aman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria, « Et en plus on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison !» Cette parole, à peine sortie de la bouche du roi, en voilà le visage de Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Il y a justement la potence que Aman a dressée dans sa maison pour Mardoché, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées de haut. » Le roi dit, « Qu'on l'y pende !» On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la fureur du roi s'apaisa. Voici donc le texte de la prédication de ce matin. Dans la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse aussi la parole qui sera annoncée aux enfants dans quelques instants. Alors la semaine passée, nous avions, si vous vous en souvenez, au chapitre 6, attaqué la partie névralgique de ce livre d'Esther. On avait présenté ce chapitre comme une sorte de plaque tournante du livre. Et c'est ainsi que Mardoché, qui jusque-là avait été oublié et lésé, se voyait enfin honoré et récompensé, passant en quelque sorte des ténèbres à la lumière. Et on avait d'ailleurs tiré comme application que celui qui s'abaisse sera élevé. Et en effet, la potence et la mort honteuse auxquelles il était promis avaient, sous la conduite de Dieu, cédé la place aux honneurs royaux. Et c'est ainsi que l'on découvrait dans ce chapitre Mardoché, revêtu du manteau du roi, juché sur la plus belle jument de celui-ci, et honoré dans les rues de Suse par le premier ministre, Aman lui-même. À l'inverse, Aman, qui était jusque-là le maître du jeu, commençait à subir brusquement un retour de situation qu'il n'avait absolument pas anticipé. Et il s'enfonçait de façon de plus en plus évidente dans son orgueil et dans sa folie. Et le concernant, on avait tiré comme application que celui qui s'élève sera abaissé. Et nous avions surtout montré dans ce chapitre que tout ceci était particulièrement et principalement dû à l'action providentielle de Dieu, se manifestant dans cette histoire de plus en plus nettement, même si le nom de Dieu n'était toujours pas prononcé et il ne le sera pas jusqu'à la fin. Et ce matin, nous arrivons dans ce chapitre 7, donc à l'accomplissement des premiers actes de justice de la part d'Esther et surtout de la part du roi Assuérus, par la dénonciation, par la condamnation et surtout par la pendaison d'Aman l'impie. Alors ce que nous allons voir dans un premier temps, dans ce chapitre, c'est que le roi, se sentant certainement redevable vis-à-vis de la reine, lui réitère son amour et sa fidélité, lui promettant pour la troisième fois jusqu'à la moitié de son royaume. Et puis nous découvrirons ensuite la demande de la reine, enfin, au moyen d'une humble et intelligente supplication de salut pour elle et pour son peuple. Puis, nous considérerons ensuite la dénonciation de l'ennemi qui, surpris, comme vous l'avez lu, est terrassé par ce qu'il va entendre de celle qu'il estimait jusque-là être sa meilleure alliée, en restera bouche bée, sera absolument incapable de se défendre. Et enfin, on dira un mot de la colère du roi à l'égard de son premier ministre, colère qui signera l'arrêt de mort d'Aman et qui conduira à sa pendaison. Alors le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, « Des ténèbres à la lumière ». Des ténèbres à la lumière, et nous aurons quatre points. Le premier, un roi redevable. Le deuxième, une intercession humble. Le troisième, un ennemi démasqué. Et enfin, le quatrième, une saine colère. Et tout d'abord donc, un roi redevable, et ce sont les deux premiers versets. Alors souvenez-vous, on va faire un petit retour en arrière, au chapitre 5, nous avions vu qu'au cours du premier banquet, lorsque le roi avait demandé à Esther eh bien, quelle était sa demande, sa requête, eh bien celle-ci s'était tue car ce n'était pas pour elle le moment de parler. Elle voulait, comme nous l'avions dit, tout simplement attendre le moment propice, celui de Dieu. Et elle n'était pas convaincue, lors de ce premier banquet, à la question du roi, eh bien que le moment de Dieu était arrivé, il lui fallait attendre le signe du Seigneur. Et comme nous l'avons considéré dans le chapitre 6, entre autres, eh bien une telle attente, tout aussi bizarre qu'elle ait pu nous apparaître à ce moment-là, fut en définitive fort sage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il fallait que d'autres éléments soient providentiellement mis en place par Dieu, afin de permettre à la reine de faire sa demande au roi avec succès. Et il fallait entre autres attendre que le Seigneur permette cette insomnie royale, conduisit Assuérus à consulter les annales du royaume pour découvrir quoi ? Pour y découvrir, 4 ans plus tard, la loyauté de Mardochée. Mardochée qui avait dénoncé, je vous le rappelle, un attentat qui visait le souverain. Et par ce même document, nous ne l'avions pas dit la semaine dernière, je vous le rappelle aujourd'hui, le roi se rendit sûrement compte, ou se rappela peut-être tout à coup, que non seulement il devait beaucoup à Mardochée, mais qu'il devait également beaucoup à Esther. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est écrit en Esther 2, 22, « Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Et ce compte-rendu de la reine, certainement, était écrit sur les plaquettes royales qui étaient lues ce soir-là. Ainsi donc, les archives lues pour le roi sur sa demande, pendant cette nuit sans sommeil, lui rappelèrent ou révélèrent clairement la droiture non seulement de Mardochée, mais aussi de sa reine, ainsi que la loyauté de celle-ci à son égard. Et dès lors, le roi se sentait redevable ou se savait redevable non seulement vis-à-vis de Mardochée, mais aussi vis-à-vis d'Esther. Et très certainement que son amour pour Esther, et je vous rappelle qu'au chapitre 2, nous avions vu que le roi était réellement amoureux de la reine, puisque les termes étaient assez explicites à ce propos, eh bien, voyant la loyauté de sa reine, Esther, qu'il aimait déjà, eh bien, cet amour ne fit que décupler. Et c'est la raison pour laquelle le roi, pour la troisième fois, lors de ce deuxième banquet, vient proposer à Esther jusqu'à la moitié du royaume. Il y en a qui pensent que c'est une promesse, un petit peu en l'air, de la part d'un roi qui se laisse aller. Mais répétée par 3 fois, cette promesse est la preuve, certainement, du désir pour le roi de plaire à sa reine et aussi de son amour à son égard. C'est donc, chers frères et sœurs, à un roi aimant auquel nous avons affaire ce matin, conquis non seulement par la grande beauté d'Esther, son épouse, mais aussi maintenant par sa droiture, par sa fidélité et par sa loyauté. Il faut encore ajouter un détail qui a toute son importance. C'est que au moment de ce deuxième banquet, le roi sait que Mardochée est juif. Puisqu'il est écrit au chapitre 6, lorsque le roi parle à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. » Cela signifie donc qu'Assuérus ne peut avoir dès lors à l'égard de ce peuple juif, dont l'arrêt de mort a pourtant été décrété officiellement et scellé par son anneau qu'il avait donné à Haman, eh bien dès lors donc Assuérus ne peut avoir à l'égard de ce peuple que des prédispositions positives et bienveillantes. Et rajoutons ceci, c'est que nous pouvons légitimement supposer que le roi, sachant que Mardochée est juif, que le roi, sachant que la reine a appris par Mardochée 4 ans plus tôt qu'il y avait un attentat, le roi a certainement fait le rapprochement, et c'est certainement, le texte ne nous le dit pas, mais on peut tout à fait légitimement le supposer, qu'il sait non seulement que Mardochée est juif, mais que la reine aussi est juive. Et cet élément supplémentaire ne peut donc faire croître chez le roi que de bienveillantes dispositions, une fois de plus, à l'égard des Juifs, qui deviennent tout à coup à ses yeux un peuple on ne peut plus loyal. Et voilà donc, chers frères et sœurs, bien des éléments nécessaires qui manquaient à la reine lors du premier banquet pour lui permettre de pouvoir faire sa demande de salut au roi dans les meilleures conditions. Voilà la raison pour laquelle Dieu, en quelque sorte, ne lui donna pas ce signal de départ. Il fallait qu'elle attende ce deuxième banquet. Il fallait que des éléments soient providentiellement mis en place par Dieu. Voilà une preuve supplémentaire de l'action souveraine et providentielle de Dieu qui conduit secrètement toutes les circonstances de ce monde. Et qui, je vous le rappelle, c'est de la bouche de l'apôtre Paul ou par les écrits de l'apôtre Paul, qui fait concourir ou qui fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de ses enfants. Alors, à l'exemple de ce qui arrive dans ce texte, dans l'histoire du peuple juif et dans les circonstances particulières de Mardochée et d'Esther, et bien que l'Éternel nous accorde d'acquérir de la patience dans nos vies. Nous l'avons déjà dit, et je me permets de le répéter encore une fois ce matin, de savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. Et Jérémie d'ailleurs l'écrit si bien dans ses Lamentations, lorsqu'il dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. » Et l'Éternel avait de la bonté pour Esther qui espérait en lui, pour Mardochée, pour le peuple juif qui s'est jeté à genoux et prié pour son salut. Et Jérémie continue en disant « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors, chers frères et sœurs, sachons attendre en silence, nous aussi, quand le Seigneur nous le demande, sans nous agiter, sans crainte, même si parfois c'est difficile, son secours qui viendra au moment propice. Une intercession humble, c'est le deuxième point, les versets 3 et 4. Après donc cette demande bienveillante et aimante du roi à l'égard d'Esther, vient enfin la requête de celle-ci. Et dans cette requête, nous découvrons une supplication qui est emplie d'humilité, de soumission et d'intelligence ou de finesse. Parce que dans toute cette prière, Esther sait mettre le roi en avant, se souciant de lui laisser toutes ses prérogatives, l'honneur dû à son rang et son autorité. Et ce que nous découvrons aussi dans cette prière ou cette demande de la reine Esther, c'est qu'elle sait se placer sous la protection de son aile, de l'aile royale, si je puis dire, reconnaissant sa faiblesse et reconnaissant son besoin de secours. Remarquez d'ailleurs à ce propos qu'elle introduit sa requête pratiquement avec la même tournure de phrase qu'au premier banquet. Elle dit au roi « Si j'ai obtenu la faveur du roi ». Et peut-être que pour elle, c'est une façon de suggérer à son mari, après qu'il lui ait réitéré sa demande et sa promesse, « Mais, Majesté, si tu m'aimes vraiment ?» Et elle se place ainsi, je le répète, sous la protection masculine du roi, mais sous la protection aussi de son mari et sous la protection du roi. Ce qui est une façon intelligente de susciter au roi qu'il assume son rôle protecteur. Demande à laquelle Assuérus ne doit pas être insensible, puisqu'il aime cette femme. Et puisque cette femme, à contrario de Vasti qui lui avait résisté quelques années auparavant, eh bien cette femme reconnaît à un moment donné qu'elle a besoin de son mari. Et celui-ci va la protéger, comme nous devrions, nous aussi, mari, protéger nos femmes. Et c'est sûrement aussi pour Esther une façon de rester soumise à l'autorité du souverain, au devant duquel, lorsqu'elle fait cette remarque, « Si j'ai obtenu faveur auprès du roi », donc une façon de rester soumise à l'autorité du roi, au devant duquel, bien qu'étant reine, son statut n'est finalement que celui d'épouse, et qu'elle n'a finalement d'autre pouvoir que de pouvoir lui demander son aide. Et puis ensuite, en continuant dans le texte, avec beaucoup de sagesse, suite à son allégeance et à son appel à l'amour du roi, nous la voyons au verset 3 et 4, implorer le secours de celui-ci. tout d'abord en tant qu'épouse bien-aimée, mais surtout et par voie de conséquence pour son peuple. Parce qu'elle sait très bien que si le roi décide de la secourir, elle, eh bien il secourra aussi le peuple juif, s'il veut rester cohérent avec lui-même. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer, encore ce matin, quant à cette prière d'Esther, c'est l'intelligence avec laquelle elle va utiliser certains termes à propos des souffrances qui lui sont réservées à son peuple, sans faire allusion aux coupables. C'est ainsi qu'elle va parler, elle va utiliser les termes « vendu »,« exterminé », »,« égorgé », »,« massacré ». Elle fait le nécessaire pour susciter la colère du roi à l'encontre du coupable, mais surtout elle ne dit rien. Et en y réfléchissant un petit peu, elle agit ainsi à la façon de Nathan le prophète. Rappelez-vous, après le péché de David, qui non seulement commis l'adultère avec Bathsheba, mais en plus fit tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et Nathan se présenta donc devant le roi David pour dénoncer ses péchés. Et il commença par lui présenter au moyen d'une histoire l'injustice criante d'un homme qui avait égorgé l'unique brebis de son voisin, qui n'en avait donc qu'une, alors que lui en avait peut-être des centaines. Et David, outré par un tel comportement, ne put que reconnaître la culpabilité de cet homme. Et c'est le moment que choisit Nathan pour lui dire « Mais tuez cet homme !» Et que fit David à ce moment-là? Il ne put répondre autre chose que « J'ai péché contre l'Éternel. » Aucune possibilité d'argumentation, de justification pour David. Et c'est exactement ce que fait Esther. Elle présente la cruauté de ce qui va lui arriver et de ce qui va arriver à son peuple. Mais elle ne prononce pas tout de suite le nom du coupable, elle laisse la colère du roi faire son œuvre. Et disons encore qu'Esther fait montre d'une grande sagesse, toujours, en ce qu'elle ne prend pas autorité sur le roi en lui disant « Voilà, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. » Elle se limite à dire les faits, à les citer et à crier au secours du roi. Et puis, pardonnez, il y a beaucoup de choses à dire sur la prière d'Esther. Et puis, il y a cette déclaration ou cette formule qui a fait couler beaucoup d'encre et se creuser les méninges de beaucoup de théologiens. Je la lis. « Encore si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Que fait Esther en faisant cette déclaration? Eh bien, elle est en train de montrer au roi que ce n'est pas tant le préjudice qu'elle va subir, elle et son peuple, qui compte lorsqu'ils seront massacrés. Mais c'est avant tout le préjudice que le roi subira par la mort du peuple juif, la destruction complète, le génocide, et par la mort de la reine. Par cette déclaration, en fait, Esther lui révèle une fois de plus, et je me réfère à l'attentat qu'elle avait dénoncé avec Mardoché quelques années auparavant, elle lui révèle qu'elle est bien plus préoccupée par la gloire, l'honneur et le bien du roi que par sa survie à elle et celle de son peuple. Et dans ce sens, elle va même jusqu'à affirmer que s'ils étaient devenus les Juifs et elle avec, s'ils avaient été condamnés à l'esclavage, eh bien elle se serait tue. Ce qui signifie que sa vie a moins d'importance pour elle que celle du roi. Elle se place, une fois encore, sur un terrain de loyauté vis-à-vis de lui. Et elle fait également comprendre au roi Assuérus que par ce génocide, le roi va beaucoup perdre. Il va non seulement perdre d'un point de vue financier, parce que si tout le peuple juif est exterminé, eh bien cela signifiera la disparition d'impôts prélevés tous les ans sur ce peuple. Mais surtout, elle lui fait comprendre que la mort de la reine, en tant que juive massacrée, va forcément éclabousser son règne. La cruauté de la décision de ce génocide s'abattra donc immanquablement sur le roi lui-même. Alors, chers amis, venons-en aux applications, au-delà de la sagesse, au-delà de la finesse, voire même, pourrait-on dire, de la ruse, révélée par cette intercession de la reine Esther à l'égard du roi, pour son salut et pour celui de son peuple, bien cette supplication devrait être pour nous une image de notre attitude de cœur à l'égard de Dieu lorsque nous nous approchons de lui pour implorer son secours. Il y a de réelles leçons à tirer de cette prière simple, humble, intelligente d'Esther. Et c'est ainsi que, de la même façon que cette femme ce souci que ce soit la volonté d'Assuérus qui soit accomplie lorsqu'elle dit « s'il plaît au roi », eh bien de la même façon, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous le prions, eh bien nos prières devraient être caractérisées par une réelle soumission à la volonté de Dieu. Alors il peut y avoir parfois des paroles de soumission, mais est-ce que notre cœur l'est réellement? Est-ce que lorsque nous disons que ta volonté soit faite, nous le faisons parce que nous savons que c'est du spirituellement correct, mais qu'au fond de notre cœur, il y a une réelle résistance? De la même façon ensuite qu'elle ne dit pas au roi ce qu'il a à faire, mais qu'elle crie à son secours afin d'être protégée et sauvée en tant que reine, de la même façon, devrions-nous apprendre à crier à Dieu afin qu'il nous secoure sans que nous ayons à lui dire ce qu'il a à faire. De la même façon encore que Esther intercède pour elle et surtout pour son peuple, eh bien intercédons pour nous et intercédons aussi pour le peuple de Dieu. Il n'y a aucune honte à intercéder pour nous. Je me rappelle d'une conférence que j'ai écoutée sur une cassette d'un colloque biblique, je crois, d'un prédicateur irlandais ou anglais, M. MacPherson, je crois, qui, lors d'une conférence, parlait au pasteur et disait « Mais priez pour vous, d'abord. Priez pour vous, pour votre vie avec Dieu, pour votre vie de famille, pour votre ministère. Alors, chers frères et sœurs, priez pour vous. Il n'y a pas de honte à prier pour soi. Prenez du temps dans vos temps de prière pour regarder au Seigneur et pour lui demander aussi qu'il vous fasse grâce, qu'il vous secoure dans votre intimité avec lui. Dans le cadre de votre travail, de votre vie de famille, que sais-je encore? Et priez pour l'Église, de la même façon qu'Esther pria pour son peuple. Priez pour votre Église, pour vos frères et sœurs, pour l'Église dans un sens plus général, universel, pour le peuple de Dieu. Et de la même façon, encore et surtout, qu'Esther est plus préoccupée de la gloire et de l'honneur du roi plutôt que du sien et de celui de son peuple, eh bien de la même façon, devrions-nous par-dessus toute chose ne pas rechercher notre avantage dans notre prière ou dans nos prières, mais la gloire et l'honneur de Dieu. Et vous savez, souvent, je me pose cette question, parce que souvent je le formule, je me dis, mais est-ce que c'est finalement, véritablement, ta préoccupation première? Tu sais que c'est juste, intellectuellement, spirituellement, tu le sais, mais est-ce que c'est vraiment le désir de ton cœur? Et je demande à Dieu qu'il m'aide vraiment à ce que ce soit de plus en plus le désir de mon cœur. Que Dieu nous secoure donc, chers frères et sœurs, dans notre vie de prière. Point 3, un ennemi démasqué. Ce sont les versets 5 et 6. Alors devant la supplication de sa reine bien-aimée, eh bien le roi n'y tient plus. Et il veut enfin savoir qui donc est l'individu qui veut ainsi porter atteinte à la vie de son épouse et du peuple juif, et par là même entacher l'empire et sa royauté. Et c'est pour répondre à cette demande que de la bouche d'Esther, la lumière va enfin jaillir et chasser les ténèbres. Au moyen de cette très courte déclaration, l'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. Et cette accusation simple, courte, quelques mots, mais foudroie Haman qui ne s'y attendait absolument pas. Et rappelons-nous d'une chose, c'est que cet homme, déjà affaibli moralement par les événements catastrophiques de la matinée, je vous rappelle qu'il a promené son pire ennemi Mardoché dans la ville de Suse, qu'il a dit « voilà ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer », puis certainement diminué physiquement par les effets pervers de l'alcool du banquet, car c'était des banquets durant lesquels on buvait du vin, eh bien cet homme reste tout à coup comme paralysé, il est pétrifié par ce qu'il vient d'entendre, c'est comme s'il était bâillonné. Effectivement, la reine Esther, qui semblait être jusque-là pour lui son meilleur allié, eh bien devient tout à coup son pire ennemi. Il demeure donc bouche bée, incapable d'improviser la moindre contre-attaque, ce qui est étonnant de la part de cet homme. Et même après le départ du roi, sa seule défense, après avoir supplié la reine, semble s'exprimer plus par sa posture que par ses paroles. Et j'aimerais vous faire remarquer ceci, chers amis, ce matin. C'est combien, par cette dénonciation d'Esther, les choses se déroulent à la vitesse de l'éclair. La lumière est faite tout à coup, au milieu des ténèbres, et il n'y a plus rien à ajouter. Aman s'écroule pétrifié, le roi s'en va dans une grande colère à l'égard de son premier ministre, et il n'y a pas besoin de grand éclat de voix, il n'y a pas besoin de procès, il n'y a pas besoin de grande plaidoirie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que l'Éternel a agi de telle façon ces dernières heures qu'au moment propice, la lumière est venue. Et avec une si vive clarté et dans des circonstances si favorables que les choses sont réglées en un rien de temps. Immédiatement, sans aucune résistance possible de la part de l'ennemi, du méchant, de l'impie, d'Aman. On peut dire que le temps de la justice est venu. Le temps où Dieu a dit « jusqu'ici, mais pas plus loin ». Et chers frères et sœurs, comment dans cette histoire, une fois encore, ne pas voir par avance, dans cette brusque conclusion des choses, dans cette rapidité et évidence avec laquelle l'ennemi est démasqué et comme bâillonné, le moment où le Seigneur reviendra, brusquement, et où l'ennemi de Dieu et les ennemis de Dieu seront tout d'un coup confondus. L'Écriture dit ceci, à propos du retour du Seigneur. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Chers frères et sœurs, le jour du retour de notre Seigneur sera un retour de grande joie, et ça se fera d'un coup. Le Seigneur viendra comme un voleur, est-il dit. Il n'y aura aucun temps préparatoire. On n'aura pas le temps de se poser des questions. Ou ceux qui sont loin de Dieu, éloignés et rebelles, n'auront pas le temps de se dire « Tiens, c'est le moment parce qu'il va revenir dans quelques instants. » Non ! Ce jour arrivera d'un coup, comme un éclair. Et comme je vous le disais, jour de grande joie pour ceux qui appartiendront au Seigneur, parce qu'ils verront leur Sauveur, parce qu'ils sauront que le temps des souffrances est terminé. Mais ce sera aussi, pour ceux qui n'appartiendront pas à Dieu, le pire moment qu'ils auront vécu jusque-là. Car ils sauront alors qu'il n'y aura plus aucune possibilité de salut pour eux, mais un juste jugement et une condamnation certaine. Et c'est exactement ce que comprend Aman au moment où la lumière se fait par les paroles d'Esther concernant son comportement et ses agissements. Et je vous pose la question ce matin, tout simplement, est-ce que vous serez de ceux dont la bouche sera fermée à ce moment-là, à l'instar d'Aman, lorsque la lumière fut faite sur qui il était et sur ses agissements. Je vous pose cette question et vous invite, une fois encore solennellement, si tel est le cas, si vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes rebelle à l'instar d'Aman, de vous mettre à genoux, de supplier Dieu qu'il vous pardonne votre péché, de prendre conscience que vous êtes ennemi de Dieu, rebelle, et que vous méritez sa juste condamnation, et tout simplement de venir à Christ, et de mettre votre confiance en lui pour votre salut. Cet événement nous rappelle encore autre chose, chers frères et sœurs, c'est que les projets malveillants ne restent jamais cachés. Ils ne restent jamais cachés bien longtemps. Car même si des agissements se trament en secret, le moment vient où Dieu les expose en public, un petit peu comme Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, qui voulurent tromper Dieu, le Saint-Esprit et les apôtres, en faisant croire qu'ils avaient vendu un champ et qu'ils donnaient tout l'argent de la vente du champ à l'Église, alors qu'ils en avaient retenu une part. Et ils moururent l'un comme l'autre. Un moment donné vient où le Seigneur révèle les choses en public. J'ai un exemple très concret d'un homme de Dieu, enfin un homme de Dieu, d'un serviteur, qui professionnellement a abusé de ses employés. Au point que ses employés se disaient « Mais comment se fait-il que Dieu laisse faire de pareilles choses ?» Et pendant des années, ça s'est déroulé. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit « Stop !» Et où tout le monde a su, connu et vu les agissements de cet homme, qui fut licencié du jour au lendemain. Et bien d'autres exemples encore. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois que le Seigneur ne révèle pas ici-bas les choses injustes qui sont demeurées cachées. Mais mais il a prévu un moment, à la fin des temps, où il les fera connaître. Et personne ne pourra l'en empêcher. Car il est écrit en Ecclésiaste 12, verset 16, « Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et il est aussi écrit, un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est Christ qui parle, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » Et ces vérités devraient être pour nous aujourd'hui comme un garde-fou. Particulièrement lorsque nous sommes tentés de pécher, croyant que nous sommes seuls, que personne ne peut savoir, que personne ne peut connaître. Parce que le psalmiste nous dit aussi que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que l'Éternel a son trône dans les cieux et que ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit aussi, vous connaissez ce verset, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors que cela nous garde quand nous avons l'impression que, finalement, on peut tout à fait continuer de pécher allègrement, personne ne saura rien. Non, l'Éternel sait. Et un jour, toutes choses viendront à la vérité. Et peut-être que ces vérités peuvent être aujourd'hui pour vous aussi une occasion de repentance. Si vous vivez aujourd'hui avec un péché commis, non confessé à l'Éternel, et qui pèse sur vos vies comme un interdit, car cela arrive aussi. Et on ne comprend pas pourquoi les choses vont ainsi. Pourquoi cette impression, parfois, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais vraiment que l'Éternel est éloigné, alors qu'au fond, il y a un péché dans lequel on s'endurcit depuis des années et des années. Quatrième point. Une colère terrible, les versets 7 et 8. Il est temps maintenant donc de parler de cette terrible colère du roi qui, à l'annonce des méfaits de son premier ministre, quitte la pièce du banquet, pris d'un accès donc de colère, de rage terrible. Et il y a plusieurs raisons à cette colère. La première des raisons, c'est que le roi se rend enfin compte que son premier ministre a utilisé son sceau royal et la confiance qu'il mettait en lui pour fomenter un génocide terrible qui verra disparaître non seulement une partie du peuple sur lequel il règne, mais surtout sa reine qu'il aime par-dessus tout. Le roi se sent donc trahi dans la confiance qu'il mettait en Haman. Et sa colère à ce moment-là n'a d'égal que la puissance de son amour pour sa reine et même la confiance qu'il mettait jusque-là en Haman. Plus vous aimez ou plus vous avez mis votre confiance en quelqu'un, plus la trahison est difficile à digérer. Et il entre ensuite dans cette terrible colère. Pourquoi ? Parce qu'il constate l'injustice qui va être commise dans son royaume, et particulièrement à l'égard de ceux qui ont justement fait preuve de tant de justice, de tant de bienveillance et de tant de loyauté. Mardoché, Esther, et avec eux le peuple juif. Et il entre encore dans cette colère parce qu'il comprend que si quelqu'un, et Haman en particulier, peut s'attaquer ainsi à la reine sans son assentiment, dans son dos, eh bien le même agresseur peut ensuite viser la personne du roi. Et nous pouvons ajouter encore à ce propos que s'il se montre si sensible à cette suggestion d'une machination, c'est qu'il vient de passer une nuit sans sommeil, au cours de laquelle les archives lui ont rappelé qu'il y avait eu un complot contre lui. Et ça le rend d'autant plus, donc je le dis, sensible à ce qu'il vient d'entendre. Et puis, dans le texte, nous le voyons, sa colère explose lorsque, retournant au lieu du festin, il voit Haman se vautrer sur la reine, et il n'y a aucune allusion sexuelle là-dedans, parce que c'était certainement pas le désir d'Haman à ce moment-là, il n'était certainement pas en train de se dire « Tiens, je vais profiter de la reine qui est seule », mais le roi, le voyant ainsi Haman se vautrer sur elle, est en train de penser qu'il veut tout simplement la tuer pour empêcher Esther d'aller plus loin et de faire des révélations au roi à son encontre. C'est la raison pour laquelle, à l'exclamation scandalisée du roi, qui retentit comme une condamnation, les serviteurs arrivent et voilent le visage d'Haman. Pourquoi ? C'était une coutume à cette époque-là, même chez les Romains plus tard, de voiler le visage des gens, car c'était une image des ténèbres de la mort qui allait bientôt les recevoir. Alors, Chers amis, cette colère du roi qui fait suite à la mise en lumière de la vraie nature d'Aman et de ses méfaits, sa trahison, sa cruauté, son injustice, sa violence, nous rappelle aussi, et ça va dans la suite de ce que nous avons vu précédemment, la colère de Dieu qui se déchaînera un jour contre Satan, contre ses démons et contre ceux qui l'auront suivi dans la révolte contre lui. Et c'est ainsi que, de la même façon qu'Assuérus entre dans une colère terrible à l'égard d'Aman à cause de sa trahison, de son injustice, de sa violence, à l'égard de la reine et d'une partie de son peuple, mais aussi et surtout de l'offense qui lui est ainsi directement faite, eh bien, de la même façon, notre Dieu, lui aussi, est en colère vis-à-vis de Satan, à cause de sa révolte contre lui, de ses violences contre son peuple, contre l'Église, de l'acharnement dont il fit preuve à son égard en crucifiant Jésus-Christ ou en poussant à ce qu'il soit crucifié. Colère encore parce qu'il bafoue journellement de différentes façons ses commandements, poussant les humains à pécher contre lui. Et cette colère s'adresse non seulement à l'ennemi, mais cette colère s'adresse aussi aux hommes qui suivent l'ennemi dans la révolte contre Dieu. Et cette colère est clairement exprimée dans la parole de Dieu. Paul écrit ainsi: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Toujours aux Romains, Paul écrit ceci à propos de la colère de Dieu: « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Et ça, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament que certains disent être le testament de l'amour, alors que l'Ancien Testament, c'est la colère de Dieu. Chers amis, on a eu cette tendance dans le monde chrétien à vouloir oublier, on a cette tendance, le Dieu de colère, celui qui a en horreur le péché. Mais on lui préfère aujourd'hui le Dieu d'amour, oubliant que Dieu est à la fois le Dieu de colère et le Dieu d'amour, prêt à faire grâce à celui qui se repent, mais haïssant celui qui s'endurcit dans son péché et lui réservant une éternité de colère à cause de son péché. Alors peut-être que vous êtes troublé parce que j'emploie le terme, le verbe haïr. Et pourtant, en parlant de la haine à propos du pécheur et de son péché, voilà ce qu'écrit aussi l'auteur des Proverbes. Il dit: « Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Alors oui, nous pouvons affirmer que Dieu a de la haine envers le péché et envers le pécheur, parce que le péché n'est pas une maladie qui vous tombe dessus comme la grippe. Il y a un lien intime entre le pécheur et son péché. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la colère de Dieu, c'est que cette colère divine ne correspond en rien à la colère des hommes, en rien, contrairement à ce que l'on imagine souvent. Notre colère, souvent, la colère humaine, est empreinte de ressentiment, est empreinte d'orgueil, est empreinte d'égoïsme, est empreinte d'injustice. Mais celle de Dieu, par contre, est pure. La colère de Dieu est parfaite. La colère de Dieu est juste. Et elle s'exprime, comme dans ce livre d'Esther et dans ce chapitre, pour favoriser le bien et pour faire disparaître le mal. Elle s'exprime, la colère de Dieu, pour faire justice et droit à l'Éternel, puis aux plus faibles et à ceux qui le craignent. C'est ainsi que, plutôt que de ne pas en parler ou de la rejeter, eh bien, rendons grâce à Dieu de ce que cette colère s'exprime avec une parfaite justice et avec une parfaite mesure pour la gloire de Dieu et pour le bien de ses enfants. Je conclus. Finalement, nous lisons à la fin de ce texte que suite à la remarque d'Arbona, donc un des eunuques du roi, selon laquelle Amon avait installé chez lui une potence de 15 mètres de haut qu'il destinait à Mardoché, eh bien le roi décida que l'on y pende Amon. L'impression que l'on a en lisant ce chapitre 7 et cette fin du chapitre 7, c'est que la pensée du psaume 73, psaume auquel j'ai fait déjà allusion, je crois, une fois, se confirme dans cette histoire d'Amon et de Mardoché. En effet, passant devant le palais du Premier ministre, certainement que plus d'un juif avait dû être perplexe et découragé à la vue d'une telle postérité, et de se dire « mais pourquoi ?» Et c'est habité par cette même incompréhension, souvenez-vous, face à la prospérité des méchants, que l'auteur du psaume pénétra un jour dans le sanctuaire de Dieu, où celui-ci éclaira son entendement et lui permit de comprendre le sort des méchants auxquels la prospérité semble réussir. Et c'est ainsi que, comprenant ce qui arrive aux méchants, le psalmiste écrit « Tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » N'est-ce pas ce qui s'est passé pour Amon ? Mais ce qu'il y a de beau dans ce psaume, qui en fait en tout cas pour moi un de mes psaumes favoris, c'est que le psalmiste termine ainsi, en pensant à son Dieu et en pensant à sa relation avec lui. Il dit « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et telle aurait pu être certainement, chers frères et sœurs, à la fin de ce chapitre 7, la prière de Mardoché et d'Esther. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Eh bien, que telle soit aujourd'hui, pour cette semaine que nous commençons, notre prière si nous lui appartenons. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Amen. Ô Éternel, notre Dieu, te rendons gloire de ce que ce matin, nous t'ayons vu à nouveau à l'œuvre. Éternel, tu es le Dieu qui travaille à toutes les circonstances de nos vies, qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Tu es celui auprès duquel nous pouvons venir tout simplement et intercéder. Tu es celui, Seigneur, qui fait apparaître la lumière et qui fera un jour apparaître la lumière de façon évidente. L'ennemi, Seigneur, sera démasqué et condamné. Tu es celui, Seigneur, qui est en colère contre le péché, le pécheur, mais qui fait grâce avec tant de bienveillance à celui qui se repent. Et c'est, Seigneur, lorsque nos cœurs se découragent, lorsque nous voyons l'injustice régner en maître, ici-bas, lorsque nous nous disons « Mais à quoi cela sert-il ? Pourquoi ai-je perdu du temps ? Me suis-je trompé ?» Seigneur, lorsque nous constatons les vérités que nous avons vues ce matin, les réalités révélées par ta parole, alors comme le psalmiste, Éternel, nous pouvons dire « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ?» Et nous pouvons dire par-dessus tout « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Ô Éternel, que telle soit notre prière, nous t'en supplions. Seigneur, que notre prière ne soit pas « Pour moi, regarder avec envie mon prochain. » Telle est ma préoccupation principale. Pour moi, être en colère contre un tel ou un tel, telle est ma préoccupation principale. Pour moi, aspirer à la gloire, aux honneurs, aux biens, aux plaisirs de la chair, telle est ma préoccupation et ma joie. Mais que notre prière soit vraiment comme le psalmiste. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oh oui, c'est notre prière. Que nous trouvions en toi, Seigneur, notre joie, notre bonheur. Nous te bénissons, car c'est en toi, Seigneur, que sont des trésors cachés, multipliés, Seigneur. Et nous te demandons aussi, ô notre Dieu, en cette fin de culte. Seigneur, que tu nous accordes donc de vivre à ta gloire cette semaine, d'être vraiment des témoins, et que cette joie de te connaître et de nous approcher de toi soit évidente à tous, à ceux qui sont auprès de nous, dans nos familles, nos amis, nos collègues de travail, ceux que nous rencontrons, et que ce soit ainsi un réel témoignage. Nous t'apportons également celles et ceux qui souffrent dans notre assemblée, te demandant de tout notre cœur éternel que tu les soutiennes et les bénisses puissamment, quelle que soit leur souffrance, leur douleur, leur handicap, leurs problèmes. Et nous te prions aussi, Père, pour ce monde, le pays dans lequel nous vivons, te remettant nos autorités, suppliant, Seigneur, que tu les soutiennes et les gardes, te remettant, Éternel, toute âme qui vit dans la rébellion, et te suppliant, Seigneur, que parmi, Seigneur, les impies, les incroyants, tu veuilles bien t'en arracher vraiment des ténèbres. Et nous te remettons tous nos frères et sœurs sur la surface du globe, te demandant que tu les gardes, que tu gardes ton Église et que tu la bénisses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.